les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour Sylvie Barnet.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous avons décidé d'évoquer la figure controversée, s'il en est, de Marie-Madeleine. Évidemment, Dan Brown avec son Da Vinci Code vulgarisé, je l'emploie même au sens un peu vulgarisé. Que faut-il en penser ?
Alors, Dan Brown n'a rien inventé de neuf. Il est allé puiser aux évangiles apocryphes, ces récits qui commentent l'écriture sainte, mais qui ne vont pas être retenus dans le canon au IVe siècle. Et notamment, il est allé puiser l'idée de la descendance spirituelle de Jésus et de Marie-Madeleine dans un évangile dit Évangile de Marie, dans lequel on raconte que Marie-Madeleine était non seulement la compagne du Seigneur, mais aussi sa sœur et sa mère.
Donc c'est un évangile copte rédigé au IIe siècle.
Alors cet évangile copte développe la thèse que Marie-Madeleine n'est pas seulement la compagne du Seigneur, mais aussi sa mère et sa sœur dans le texte. En fait, l'agnose, c'est un mouvement qui est très vite dénoncé par les milieux spirituels et qui a une recherche de Dieu qui s'apparente à une recherche très désincarnée. Donc cet évangile sera plus tard réfuté et puis le personnage de Marie-Madeleine, lui, va prendre une toute autre voie pour se construire.
Donc là, on est au moment de l'évangile de Marie dans les années 150, après Jésus-Christ. Comment, au fil des siècles, ça va se développer et quelle est la première fois où on va parler de Marie-Madeleine ?
Alors en fait, la première fois où on va vraiment parler de Marie-Madeleine au sens propre du terme, c'est à la fin du VIe siècle. Et là, il y a un auteur de sermons qui est un pape, qui s'appelle Grégoire le Grand. Et Grégoire le Grand va faire une homélie dans laquelle il va pour la première fois construire le personnage de Marie-Madeleine pour le proposer à la méditation des fidèles. Alors, cette méditation, elle se passe de la manière suivante. On a l'habitude au VIe siècle, c'est une démarche qui est complètement courante, même si pour nous, cela nous paraît un petit peu compliqué. En fait, on va aller repérer dans les évangiles les figures de Marie. Chaque fois que le texte des évangiles mentionne le nom de Marie, par exemple, Marie, la sœur de Lazare. Marie de Magdala. Alors, Marie de Magdala, qui est femme à qui Jésus apparaît sous la forme d'un jardinier, et c'est Christ ressuscité, qu'elle est la première à apercevoir. Et puis, il y a aussi cette fameuse pécheresse avec dont les longs cheveux vont faire une chemise de soie sur les pieds du Christ pour loindre de parfum.
Et puis, donc, Marie, la mère...
Et Marie, la mère du Christ, mais ça viendra un petit peu plus tard. Parce que Grégoire le Grand, à la fin du VIe siècle, va donc montrer comment il y a tout un chemin spirituel qui permet d'aller de Marie en Marie dans les évangiles. Il y a comme un chemin qui permet, par la méditation, de passer de figure en figure. Et il va en faire Marie-Madeleine. Et à partir de là, très vraisemblablement, cette méditation proposée à l'attention des fidèles dans un Occident qui se christianise, eh bien, va vraisemblablement être habitée et être vécue par une femme à qui l'on va donner le nom de Marie-Madeleine, dont les reliques sont mentionnées pour la première fois au 8e siècle. Et surtout, c'est à partir du IXe siècle, dans le sillage bénédictin, que Marie-Madeleine va véritablement prendre une forme cultuelle, une forme dévotionnelle, parce qu'on va venir vénérer ses reliques.
Alors, si je vous comprends bien, Sylvie Barnet, Marie-Madeleine, c'est une sorte d'invention.
Alors, Marie-Madeleine, c'est une invention au sens où le Moyen-Âge le dit, c'est-à-dire que c'est d'abord une méditation de l'Écriture sainte proposée aux fidèles, et ensuite, il y a quelqu'un qui va, dans sa vie de chair, habiter ce personnage. Donc, ça n'a rien d'une invention au sens fictif du terme, mais c'est une véritable aventure spirituelle, un chemin de liberté. Et Marie-Madeleine, ensuite, à partir du XIe siècle, va être très connue parce que sa dévotion va être lancée par les abbés de Vézelay, monastère de Vézelay, qui va être repris par les Clunisiens, qui va profiter d'une relance bénédictine au XIe siècle. Et à ce moment-là, on va développer son culte.
Elle arrive à Vézelay.
Et puis, on commence à raconter sa vie. Et à ce moment-là, on raconte comment Marie-Madeleine débarque à Aix-en-Provence aux côtés de Saint-Maximin. Et puis là, il lui arrive toutes sortes de choses. Ce qui va faire qu'un petit peu plus tard, au milieu du XIIIe siècle, comme cela arrive souvent au Moyen-Âge, le monastère d'Aix et le monastère de Vézelay vont se faire concurrence pour la possession des reliques. Parce que Aix, avec la grotte de la Sainte-Baume, va à son tour revendiquer la présence de Marie-Madeleine en ces lieux. Marie-Madeleine, qu'on a d'ailleurs comparé à une autre sainte ermite qui était Marie la pécheresse. Donc il y a là tout un amalgame qui va faire que Marie-Madeleine, au milieu du Moyen-Âge, elle est extrêmement vénérée parce qu'elle est à la fois une Marie, mais une Marie qui n'est pas encore une Vierge Marie, mais qui ressemble un petit peu à Ève, sans être complètement Ève, parce qu'elle a déjà fait du chemin, donc c'est véritablement un modèle que l'on propose à l'attention des fidèles, et notamment des femmes au milieu du Moyen-Âge.
Mais c'est merveilleux, alors cette femme qui est à la fois pécheresse, mais qui ne l'est pas vraiment. Alors finalement, c'est un modèle pour les hommes aussi, délicieux, non ?
Oui, et puis bon, avec ses longs cheveux qui lui servent de vêtements, c'est aussi tout le symbole de la féminité.
Alors à la Sainte-Baume, dans les grottes de la Sainte-Baume, on va vénérer Marie-Madeleine ermite, d'une certaine
alors,
façon.
On va vénérer Marie-Madeleine telle que sa vie est racontée, par exemple, dans la légende dorée de Jacques de Voragine. Alors là, on apprend que c'est une fille à château, qu'elle vit aux côtés de Saint-Maximin et d'autres compagnons et qu'elle mène une véritable vie de pénitente. Et le texte dit joliment qu'elle se dénude l'âme.
C'est joli. Alors, est-ce voilà qu'on ne l'a pas fiancée à Saint-Jean l'Évangéliste ?
Alors, le texte de Jacques Bourragine raconte qu'il y a certaines rumeurs racontant qu'elle a été fiancée à Saint-Jean l'Évangéliste, mais que finalement, ils ont tous deux opté pour une voie différente, préférant renoncer aux plaisirs de la chair pour les plaisirs de l'esprit.
Donc Jacques de Voragine, 13e siècle, 1298, donc c'est vraiment le début du 13e siècle. Et par rapport à Marie, alors la mère de Jésus, comment se situe Marie-Madeleine ?
Alors Marie-Madeleine va être sans cesse comparée à la Vierge Marie, parce qu'elle porte le même nom qu'elle. Mais autant la Marie-Madeleine va rester le modèle de la virginité, le modèle de la femme par excellence, autant Marie-Madeleine va toujours porter sur elle finalement un petit morceau d'Ève. Hein, et la raison pour laquelle on la représente nue, c'est pas simplement parce qu'elle dénude son âme, c'est aussi parce qu'elle est vêtue de cette nudité de la chair qui est celle du péché que la Vierge Marie, par définition, ne porte pas.
Voilà une belle figure de femme tout de même dans les évangiles, y compris dans les évangiles apocryphes. Merci Sylvie Barnet de nous avoir éclairé sur cette femme, Marie-Madeleine.
Merci.